Patria, patriarca, 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 patria, patriarca, patria.
Boucle beat chain, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir, bienvenue sur Dégenré. Donc ce soir, c'est une émission un peu particulière. On vous avait annoncé que ce soir on aurait des invités. Alors on a effectivement des invités, mais c'est pas tout à fait celle qu'on avait prévue, puisqu'on devait inviter les comédiennes et les artistes de l'atelier Totobé et des Féroces qui sont en ce moment en création à Grenoble pour un spectacle féministe. Et finalement, c'était pas possible qu'elles viennent ce soir, Donc voilà, c'est pas grave, on a trouvé une autre solution. Donc j'ai quand même juste envie de leur faire un petit clin d'œil en vous parlant de leur spectacle et en vous donnant les dates de leur spectacle qui donc se passe dans le cadre du FITA, le Festival International de Théâtre Action, qui est en ce moment à Grenoble, où il y a vraiment plein de spectacles chouettes.
Et qui est un festival de théâtre politique, on peut le dire, quoi. C'est vraiment sur des questions sociales et politiques.
Et il y a d'ailleurs plusieurs spectacles qui ont l'air de traiter des questions féministes, et notamment le leur qui s'appelle « Femmes en situation de crise ». Et donc, elles vont jouer le 27 novembre à 15h au Théâtre Prémol, ou alors le vendredi 10 décembre à Antigone, donc Antigone, la bibliothèque-librairie 22 rue des Violettes à Grenoble. Et puis elles ont quelques autres dates, mais on trouve le programme assez facilement, donc on vous conseille vraiment d'aller les voir, je pense que ça vaut vraiment le coup.
Voilà, et du coup, c'est pour ce soir, c'est pas une émission au rebut, c'est voilà, un sujet fort intéressant, parce qu'il s'agit un peu des mouvements sociaux actuels. Alors, certaines pourront dire qu'on est un peu décalé, qu'on arrive un peu à la fin. Et nous, il nous semble justement que ça, c'est un peu le discours ambiant, notamment véhiculé par les grands syndicats, qui disent « bon, bah oui, on a fait ce qu'on a pu, c'est déjà bien, etc. » Mais nous, il nous semble qu'il y a toujours des bonnes raisons de lutter. Et puis on avait envie un peu de rappeler, par exemple, l'histoire du CPE, qui, alors vous me dites, chers invités, si jamais je me trompe au niveau des dates, mais c'est bien à l'automne 2005 qu'il a été adopté et, grâce aux luttes, qu'il a été retiré finalement au printemps 2006. Bon, pas de cris dans le studio, ça doit être ça. Et en tout cas, de toute façon, on s'en fout un peu des dates. C'est plus pour vraiment montrer que les fortes mobilisations dans la rue et aussi la radicalisation des luttes, le fait que ça touche différents secteurs de la société, etc. Et ça a fait reculer notre cher gouvernement. Et du coup, nous, on a envie de continuer, pas à espérer naïvement et quoi, mais à se battre parce que des fois on n'a pas le choix. Donc c'était un peu l'idée d'en parler ce soir. Et puis nous, alors c'est pas pour toujours tout ramener à des questions féministes, mais il nous semble qu'il y a des choses intéressantes à discuter, en quoi les questions actuelles, notamment sur les retraites, mais plus largement sur des questions sociales, etc., concernent des femmes. Et puis aussi, qu'est-ce que ça fait aussi d'être des femmes dans ces mouvements de lutte. Donc c'est toutes ces questions qu'on va aborder ce soir avec des personnes qui sont parties prenantes un peu de ces mouvements-là, que ce soit au niveau de la poste, à la fac ou de façon plus autonome en participant à l'AG des luttes qui se tient au passage tous les soirs, c'est 17h ou 17h devant la gare. Voilà. Alors, pour commencer, on avait envie un peu de voir la question spécifique des retraites, parce que même si on a envie justement nous d'élargir le débat, ça nous semblait peut-être important de redonner quelques éléments sur la réalité actuelle pour les femmes par rapport aux retraites et la réalité qui est faite de grosses inégalités.
Eh bien oui, et ça, c'était déjà le cas avant le passage de cette nouvelle loi sur les retraites qui ne fait en fait qu'empirer la situation des femmes, puisque les femmes âgées, il faut le savoir, c'est une des parties les plus pauvres en fait de la société française, parce que déjà, il y a une grande inégalité entre les pensions des hommes et des femmes, puisque elle touche en moyenne 62% de moins que les hommes une fois à la retraite.
Je crois que c'est que un homme, par exemple, il va toucher 100 un homme va toucher 100 € et la femme à équivalence va toucher 62 €.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc 62% de ce que touchent les hommes.
C'est toujours les histoires de chiffres, c'est compliqué.
Ok, mais d'ailleurs, quand on enlève en fait, par exemple, toutes les pensions de reversion, c'est-à-dire ce que toucheraient les femmes quand leur mari, si elles sont mariées déjà, meurt, il faut savoir qu'en moyenne, une femme percevrait 746 € par mois de pension. Donc c'est vraiment très peu. Et puis en plus, vu que les femmes aujourd'hui ont des carrières beaucoup plus morcelées que les hommes, que souvent c'est elles qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants, ça fait que... Et puis c'est aussi elles qui sont le plus souvent contraintes de prendre des temps partiels, et qui dit temps partiel dit retraite partielle. Tout ça accumulé fait que les femmes aujourd'hui sont vraiment défavorisées. Enfin voilà, elles sont dans une situation très difficile arriver à la retraite. Voilà.
Alors ouais, ça c'est une réalité globale. Je sais pas, je sais pas si par exemple à la poste ou quoi, vous avez un peu des idées justement, est-ce qu'il y a des trucs spécifiques justement par rapport aux femmes, par rapport à la retraite?
À la Poste, il faut savoir que ça c'est l'entreprise qui emploie le plus de salariés en France, et aussi de plus en plus de femmes en fait. À la Poste, c'est surtout des femmes. Et ce qu'on constate, nous, de notre côté, c'est notamment... c'est pas au niveau... la réalité, on n'arrive pas trop à la saisir au niveau de la thune qu'on va avoir plus tard, ou les pensions et tout ça. Mais déjà, rien qu'au niveau de la pénibilité du travail Et toutes les maladies en fait qui s'enchaînent, et notamment en fait par exemple chez les femmes il y a beaucoup plus de tendinite sciatique, lombalgie et tout ça qui arrivent là. En fait, les femmes, quand elles arrivent dans l'entreprise, elles ont les maladies qu'avant les femmes avaient au bout de 20 ans, et maintenant on les a au bout de 2 à 5 ans. Et donc, quand on nous dit travailler encore plus, on se dit c'est pas possible. Même là, à l'heure actuelle, travailler juste jusqu'à 60 ans, ça serait juste
Physiquement.
Ouais, physiquement déjà. Dis,
ouais. Ouais. Et je crois qu'il y avait un autre chiffre aussi qui m'interpellait, c'était parmi les personnes qui touchent les retraites les plus faibles. Ouais, c'est ça, c'est la moitié des femmes retraitées avaient, donc là c'est un chiffre qui date de 2004, mais bon, qui est assez récent, avaient en 2004 une retraite inférieure à 900 euros. Donc, alors qu'il n'y a que 20% des hommes qui avaient donc une retraite en dessous du SMIC, hein, en gros, c'est ça que ça veut dire. Pourtant, c'était la moitié des femmes retraitées, quoi. Donc, c'était assez énorme.
C'était aussi... en fait, là, pour calculer les retraites, on calcule le travail salarié. Et moi, quand on parle des femmes, j'ai aussi envie de parler du travail domestique, qui n'est pas du tout comptabilisé et qui, pourtant, fait qu'une femme qui est restée toute sa vie au foyer... donc est censée ne jamais avoir travaillé, et pourtant je pense qu'elle a dépensé, elle a fait du travail, elle a travaillé pour faire le ménage, faire à manger, s'occuper des enfants, s'occuper de toute la famille, du mari aussi, et activités qui peuvent être professionnelles par ailleurs mais qui là sont gratuites et qui du coup permettent pas de toucher, qui ne sont pas comptabilisées. Et ça, c'est aussi une des explications de la précarité des femmes au moment du départ à la retraite, qui se retrouvent du coup avec des minimums vieillesse ou... Je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, c'est une des explications que je trouverais, quoi. Et je trouve important de le dire quand on parle de travail et de femmes.
Oui, et du coup, moi, j'avais envie peut-être de parler de ce qui se passe à Grenoble aussi, d'une tentative, même si, c'est comme dans toute forme de mobilisation, c'est pas évident, mais je crois qu'il y a une tentative de se retrouver un peu sur cette question-là pour parler de la retraite des femmes, d'un collectif qui se réunit. Alors, je ne sais pas si tu peux nous en dire plus.
Alors, je peux pas trop en dire plus parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas trop allée, mais en tout cas, il y avait la volonté de créer un collectif un collectif de femmes à propos de la retraite qui prenne justement en compte ces questions des retraites des femmes qui sont extrêmement faibles, mais aussi les questions de dans quelles conditions les femmes travaillent, quel travail elles ont, et aussi la question de la place des femmes dans les mouvements sociaux. Du coup, à peu près la même chose que cette émission finalement. Et du coup voilà, alors il y a beaucoup de tracts qui ont été diffusés, notamment à la CAF, où il y a une dizaine de jours à peu près, où justement apparemment elles sont arrivées à ce moment-là à ce qu'il y ait d'autres femmes qui les rejoignent. Donc voilà, après exactement où ça en est, je sais pas trop, je pense qu'il va falloir suivre Indie Media dans les jours qui viennent.
Ouais, je crois aussi qu'elle s'était réunie un moment à la Maison des Associations, donc comme piste pour avoir plus d'infos là-dessus, pour celles qui veulent continuer à se mobiliser. Vous pouvez regarder sur Indie Media Radio ou voir un peu à la Maison des Assos.
Ce qui est l'occasion de dire que pour se renseigner un peu sur tout ce qui se passe en ce moment, c'est mieux d'aller voir dans les médias un peu alternatifs plutôt que dans la presse... capitaliste bourgeoise qui relaie plutôt que c'est fini, quoi, alors que ça, c'est pas fini.
Tout à fait. Alors peut-être on va pouvoir s'écouter un petit morceau de musique avant de passer un peu aux revendications aussi plus larges de ce mouvement social.
Ouais, on va écouter un morceau d'un groupe qu'on a entendu hier soir en concert au 102 et on vous le présentera un peu plus après.
Yeah.
Et voilà, on vient d'écouter Slux, donc un groupe allemand avec que des filles, des Riot Girls, emo, punk, qui ont joué hier au 102. Et c'était la première soirée organisée par le collectif Dali Dark, un collectif aussi féminin qui se réapproprie justement ces des soirées organisées autour de concerts, de super sympa, et où ce sont des filles qui gèrent la soirée, et ça c'est pas mal aussi, surtout dans le milieu punk et emo punk. Voilà.
Et est-ce qu'on peut pas les entendre ce groupe là elles font pas une tournée? Non, y a pas, elles font pas d'autres dates dans d'autres villes ou quoi? Pas à notre connaissance.
Ouais, après il faut aller sur leur site, et elles sont pas mal divulguées. Si on va sur internet, on tape Slux, S-L-U-X, et ça marche bien.
Alors donc nous avions un peu un débat en interne sur au-delà de cette question des retraites, pourquoi on descend dans la rue depuis quelques semaines, voilà maintenant, oui ça fait pas loin de 2 mois je crois, pourquoi on descend dans la rue, quel intérêt on trouve à la mobilisation collective. Et je crois qu'on a aussi peut-être chacune des vécus un peu ou des perceptions un peu différentes de c'est quoi l'intérêt, et puis aussi peut-être certaines désillusions ou quoi. Alors bah, c'était l'occasion un peu d'en discuter ensemble. Alors je relance un peu comme ça, savoir par exemple en tant que factrice, vous est-ce que vous parliez donc de la question du report de l'âge de la retraite, que par rapport à la pénibilité tout ça c'était ça vous paraissait complètement aberrant et ouais pas possible en fait, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous portent dans le fait de descendre dans la rue, de dire que vous n'êtes pas d'accord tout ça? Ouais, c'est des questions pas évidentes, hein.
Chez les facteurs, en fait, par exemple, il y a eu une lutte contre la privatisation de la Poste, c'était l'année dernière déjà, et où on s'était déjà mobilisé parce que notre travail, notre métier se fait voler vraiment par une entreprise qui veut des conditions de travail libérales et tout ça. Et du coup en tout cas par exemple moi personnellement je suis descendue dans la rue plus parce que de toute façon tous les jours le nez dans le guidon c'est la merde, et donc là c'était comme l'effervescence plus collective, plus large, mais c'était pas que sur les retraites que ça m'intéressait, c'était repartager des moments de lutte, de ras-le-bol, créer des solidarités dans notre boulot, mais c'était plus un ras-le-bol général en fait. Moi j'attends ça, j'attends pas juste les 62 ans, quoi. Enfin, enlever les 62 ans, les 2 ans, on s'en... Enfin, là, juste... Déjà, rien que maintenant, c'est trop la merde, quoi.
Ouais. Et t'as l'impression que ce point de vue-là, il est partagé au sein des facteurs et des factrices? Enfin, toi, parmi tes collègues, t'as l'impression que c'est...
J'ai l'impression que c'est un peu une minorité. Ouais, c'est beaucoup la génération des jeunes qui arrivent à la Poste, aussi parce qu'on est passé par plein de temps précaires, de CDD pourris et tout ça, et où il y a une réalité quotidienne de la précarité. Et là, les colères sont plus fortes, en tout cas. Les plus anciens, ils sont complètement aigris et désillusionnés. Donc en fait, bizarrement, c'était quand même beaucoup les jeunes à la Poste qui se bougeait.
C'est l'idée, c'est de voir un peu, tu vois, de différents endroits, je sais pas, et à la fac qu'est-ce qui se perçoit un peu des je sais pas si c'est juste en termes de revendications, mais de l'ambiance un peu pour les gens qui descendent dans la rue tout ça.
Eh bien justement, assez étrangement, à la fac, il ne s'est jamais posé depuis le début la question des revendications dans aucune AG, dans aucun comité de mob, dans aucune réunion. Du coup, moi, j'ai trouvé ça assez drôle parce que j'ai l'impression que ça évitait justement le débat entre les gens qui étaient seulement contre cette réforme et les gens qui, percevaient les choses d'une manière un peu plus globale et qui, dans une optique anticapitaliste par exemple, pour parler que de ça. Et du coup, c'était assez drôle parce que cet après-midi, j'étais à un comité de mobilisation qui, pour une fois, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble et qu'est-ce qu'on veut, et de peut-être d'affronter les choses maintenant d'une manière plus globale et de se dire que de toute façon, le retrait de cette réforme, c'est qu'une réforme parmi d'autres, et c'est une réforme. c'est une réforme comme d'autres, en fait, et comme il y en aura encore. Et du coup, de se dire qu'en fait, derrière tout ça, c'est un système, au final, qui fonctionne. Du coup, voilà. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est partagé par quelques personnes à la fac. Après, il reste... justement les centrales syndicales comme l'UNEF qui martèlent que c'est la réforme et ce sera rien de plus. Et j'ai l'impression aussi que les gens se sont beaucoup reposés sur le fait dans les sondages, il y avait 80% de personnes qui étaient contre cette réforme. Et du coup, se sont beaucoup reposés là-dessus, sur le fait que de toute façon, cette réforme était inacceptable et pas se poser la question de qu'est-ce qu'il avait créé ou qu'est-ce qui avait entraîné en fait qu'on en est là maintenant.
Alors ouais, moi j'ai l'impression aussi de, je sais pas, de ma petite mobilisation là ces dernières semaines, moi j'ai l'impression que au début j'ai eu hyper du mal à me motiver à descendre en manif parce que justement parler des retraites, ça me paraissait hyper limité. Je me disais mais moi déjà j'ai pas envie d'être forcément salarié en fait. Enfin moi j'ai été salarié quelques temps dans ma vie et tout, et je trouve que voilà, pas choisir son temps de travail, avoir des rémunérations et des contrats précaires, etc. Et ben voilà, ça m'a vite fatiguée. Et du coup ben juste me battre pour les retraites, en fait ça me semble pas assez pas assez large. Et puis bah heureusement avec des gens autour de moi et tout, ben j'ai senti que les aspirations des gens, elles pouvaient être plus larges. Et du coup, bah, ça m'a plus incité à y aller un peu faire un tour. Et j'ai l'impression que ce qui peut être intéressant sur cette question des retraites, c'est aussi la question, par exemple, des répartitions des richesses, en fait. Et c'est de se dire, bon, est-ce qu'il n'y a que quand on a trimé toute sa vie qu'on peut prétendre, à partir d'un certain âge, à un peu d'argent, est-ce qu'en tant qu'être humain, tout le monde ne devrait pas avoir... un minimum, voire une somme correcte pour vivre. Enfin, pour moi ça pose toutes ces questions là qui sont pas toujours justement amenées par des syndicats, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent être amenés par des collectifs collectifs de chômeurs par exemple, ou tout ça, et que ça me semble super important.
Oui, moi effectivement j'ai l'impression qu'il y a différentes personnes qui prennent des positions aussi très différentes, où j'ai l'impression que les syndicats ont beaucoup martelé l'histoire des retraites comme revendication. Et après, j'ai vu dans les manifs, au moins à Grenoble, des initiatives différentes. Par exemple, j'ai l'impression que sur quasiment toutes les manifs, il y avait le collectif Solidarité Rome qui était là avec une banderole et des fois des tracts. Qui élargissait aussi sur d'autres colères et sur d'autres envies. Et j'ai l'impression que cette question des richesses, effectivement, elle était là, mais j'ai l'impression que quand c'était les syndicats qui communiquaient, il y avait juste la question des retraites. Et quand c'était d'autres personnes, j'ai l'impression que cette question sous-jacente des richesses et du partage des richesses, elle était beaucoup plus exprimée, en fait.
Et j'ai l'impression qu'on parlait aussi d'AGE, parce qu'après, on peut dire qu'il y a les syndicats et du coup des antennes syndicales dans différentes entreprises. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui ont fait grève dans les entreprises ou services publics ou quoi, qui n'étaient pas forcément syndiqués. Et alors, après, je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais apparemment, quand même, de plus en plus de gens non syndiqués qui se mobilisaient aussi. Et puis des gens au chômage ou sans activité pour le moment, ou je ne sais pas quoi, qui ont pu se mobiliser. Et du coup, il y a notamment un espace comme l'AG des luttes qui était fait justement pour tout le monde autour de ça. C'était intéressant parce que là, en discutant, on disait qu'il n'y avait pas forcément de revendications portées par l'AG des luttes.
Non, c'est vrai, il n'y a pas de revendications portées par l'AG des luttes.
Ouais, l'idée c'était plus de quoi, de créer du collectif ou
Je pense que c'était de pouvoir réunir les gens qui sont pas dans un syndicat, enfin qui sont pas forcément dans un syndicat mais qui peuvent l'être aussi. Et justement ce que tu disais avant, des gens qui sont retraités ou précaires ou chômeurs ou encore étudiants ou quoi, et qui peuvent pas qui ont pas la possibilité, pas envie d'être dans un syndicat, ou qui en fait aimeraient bien faire une transversalité. Et du coup, le but, dans plein de villes, c'était qu'il y ait des AG de lutte. Alors, elles prennent des noms différents. Ça peut être Interlutte. Il y a eu AG de... Nous, c'est AG de résistance, normalement. Voilà, il y a eu différents noms, mais c'est des AG de gens
qui sont ou syndiquées ou non syndiquées et qui avaient envie de sortir de l'organisation des centrales syndicales. Et on peut dire qu'il y a une particularité à Grenoble, c'est qu'il n'y a particulièrement pas de gens syndiqués dans ça. Là, il y en a. Je pense qu'ils font partie du syndicat solidaire ou de la CNT. Quelques électrons libres de Force ouvrière ou la CGT au début. Mais je pense que c'est une particularité grenobloise, puisqu'on peut voir que dans d'autres villes, la CGT se joint à ces âgés-là. Mais qu'à Grenoble, ils ont l'air de la considérer comme un petit truc ultra minoritaire, comme ça a été dit. Mais c'est pas grave, on le fait quand même à la gare tous les jours à 17h, même le week-end souvent. Et donc c'est par exemple décider d'action, toutes les choses de communication qu'on a fait en ville, faire des opérations péage gratuits pour récupérer de l'argent pour envoyer en soutien aux caisses de grève. Par exemple des raffineries, on a fait des opérations de péage gratuits. Et voilà, et du coup, c'est vrai qu'à Grenoble, elle est particulièrement pas puissante du fait de, on pense, de la mainmise de l'intersyndicale sur beaucoup de syndicats et tout. Enfin, c'est toujours le cas, c'est un peu une banalité de dire ça, mais je pense que la situation locale est le plus grave que dans d'autres villes, comme Chambéry, par exemple. Il y a vraiment des gens de tout horizon dans l'AG de lutte du soir, mais vraiment, enfin, de tout horizon, qui sont à gauche en général, et après, jusqu'aux anarchistes, on va dire. Et là, ici, c'est quand même plus restreint, on va dire. C'est quand même un peu plus d'extrême gauche. Ou alors des gens un peu perdus, ça c'est pas mal, du coup, qui n'ont pas forcément une étiquette et puis qui se promènent. C'est agréable aussi.
D'accord. Et je me disais que c'était bien aussi de parler de la situation actuelle à Grenoble. Là, tu parlais de cet âge des luttes. Et il y a une autre, il y a des trucs aussi qui sont passés hier. Là, j'ai l'impression dont les médias se sont fait le relais et qui sont vraiment graves. Et on a des versions forcément toujours par les médias étatiques qui sont très inexactes. Et du coup, il y a eu une manif de lycéens hier et il y a eu un jeune en fait qui a par la peur de la police et tout qui s'est vu un peu contraint de sauter d'un pont et qui est gravement blessé, et je me disais que c'était peut-être bien d'en dire quelques mots.
Moi je veux bien en parler un peu et peut-être on peut me reprendre ou je sais pas quoi. Il y a du coup ça s'est passé au niveau de la Porte de France sur le pont, et la manif elle était sur le pont, il y avait des policiers des deux côtés, il y a une voiture qui a foncé dans les manifestants, donc la police a chargé pour ramener le calme, tout ça, et comme il y avait la police un peu des deux côtés, ça a fait des mouvements de foule, et à un moment il y a des CRS qui ont essayé d'arrêter des personnes, et donc il y a à ce moment-là du côté de la ville de Grenoble, du coup il y a eu une personne qui s'est fait arrêter et son frère en même temps qui est tombé du pont, qui a sauté du pont et qui est arrivé du coup 6 mètres plus bas inconscient, et l'autre personne s'est fait arrêter, mettre au sol et frapper par la police. Et ça a été vu, filmé, photographié par plusieurs personnes. Mais si jamais vous avez été témoin de ça, et ben c'est bien de donner des témoignages à l'anti-REP, qui est un collectif anti-répression, ou alors à d'autres collectifs. Alors en tout cas, ce qui s'est passé après par rapport à la personne qui est tombée du pont, c'est que la police l'a déplacée alors qu'elle avait des vertèbres cassées. Et du coup, ça c'est aussi un fait qui est vraiment très grave, parce que c'est vraiment dangereux de faire ce genre de choses. Alors bon, je sais pas trop ce qui va se tramer, et la personne qui a été arrêtée potentiellement elle va passer en comparution immédiate. Alors voilà, je peux vous donner le contact de l'anti-REP si vous voulez passer des témoignages. C'est anti-REP GRE, ça s'écrit ANTIREPGRE @nolog.org. du coup ça c'est le mail de l'anti-REP si vous avez des témoignages. Mais voilà en gros pour l'histoire qui s'est passée hier à la Porte de France.
Et je sais qu'il y avait un rassemblement de soutien donc à la personne blessée là, ce midi à 12h devant l'hôpital Michalon.
Ouais. Ouais, ben moi j'y étais donc à midi et demi aujourd'hui devant l'hôpital, et donc on était quand même assez nombreux et surtout super émus. de ce qui se passe et puis inquiet pour sa santé d'abord parce que c'est hyper grave ce qui lui est arrivé et puis inquiet aussi pour son frère parce que il est toujours en garde à vue, donc ça veut dire que sa garde à vue de 24 heures a été renouvelée et c'est pour ça que c'est hyper important de récolter les témoignages, notamment de son arrestation. Enfin voilà, s'il y a des gens qui étaient sur le pont et qui ont vu comment ça s'est passé, c'est important pour lui parce que, enfin, pour préparer sa défense. Voilà.
Bien, du coup, tout ça pour dire que voilà, y a plein de choses là, qui sont portées dans ces manifestations au-delà de la question des retraites et des mobilisations locales qui se poursuivent. Et du coup, avant de continuer, on va se passer un petit morceau de musique.
You say that you know what you can, what you can. You say that you know who you are, the sheets. You say that you know what you want, what you want. You say that you can. Sorry for yourself and nobody cares. You're talking, you're talking, nothing but shit. You've got to take responsibility and learn some empathy. Try to wake up now and see yourself. You've got to take responsibility and learn some empathy. Others controlling, dominating, heard and seen. You're taking the right to use. Others, who do you think you are? Who act like that? We're talking, we're talking, we're talking about you. You're a man, I'm a man. Ups now, you forgot to see yourself like a man, like a man. What you do, like a man, like a man, like a man. What you do, like a man. We're talking, we're talking, we're talking about us. You got to take responsibility and learn some empathy. You got to take responsibility and learn some empathy. Try to wake up now and see yourself.
Thank you.
Donc voilà, on vient d'écouter Compass, c'est un groupe suédois de Stockholm avec 9 membres, dont 5 meufs et 4 gars. C'est un morceau qui a été enregistré à peu près dans les années 2004. C'est un groupe qui existe toujours, mais les membres ont un peu varié, mais pas trop. Et c'est du rock raga ska, anarchiste, féministe, avec des textes super politiques, une musique dansante, et ils font souvent des concerts de soutien. Donc voilà, c'était une petite présentation d'un petit groupe plutôt sympatoche.
Voilà. Merci.
Et donc, comme on parlait de répression tout à l'heure, je voulais juste signifier que sur la fac, normalement, à partir de vendredi matin, 8h, il y aura des tables de presse et un point qui sera fixe entre la BU et devant Stendhal, en fonction de s'il pleut ou non, pour un peu discuter avec les gens de ce qui va continuer à se passer. Et... aussi, il y aura à ce moment-là une caisse anti-rep et une partie des sous qui seront reversés soit à la caisse de grève, soit à l'anti-rep. Voilà.
Et du coup, ouais, on voulait continuer un peu sur cette question aussi, donc là, des mouvements sociaux en cours, mais aussi, on pourrait dire, des luttes en général, et se poser un peu la question de est-ce que ça crée des choses particulières, par exemple, d'être une meuf dans ces contextes-là? Est-ce que on a l'impression qu'on vit des choses particulières du fait d'être une meuf, une femme, comme on se définit chacune. Voilà. Et du coup, on avait un peu des textes aussi intéressants là-dessus, donc on avait envie de vous en parler. Mais moi, je voulais peut-être commencer simplement là-dessus à en discuter, en se disant que, par exemple, justement, parce qu'on parlait de répression, et moi je sais que c'est des questions qui me préoccupent, enfin que je vis directement, où j'ai l'impression que en manif, moi il y a quelques années, j'étais à fond, j'avais pas peur et tout, et je sais que maintenant, quand il y a les flics qui sont prêts à charger, etc., j'ai la trouille. Et je sais pas pourquoi, enfin ça peut être lié à plein de choses. Je pense à mon éducation de fille, à la peur de me faire taper, à plein de choses, mais qui font que c'est plus compliqué pour rester dans la rue alors que t'aurais envie et que tu te dis qu'il faut pas lâcher le morceau et tout, mais que quand tu commences à avoir la trouille ou quoi. Et pour moi, ça, c'est des réalités où je vois bien quand même que mes petits camarades masculins, en général, ils n'arrivent plus facilement à oublier cette trouille-là ou quoi. Alors voilà, partageons nos expériences, hein, c'est clair. J'ai beaucoup de camarades mauviettes aussi, donc c'est très bien, voilà, on se dit ça c'est... Voilà, et qui partent en courant, évidemment. Mais c'est vrai que par rapport à des a priori qu'on peut avoir, et puis malgré tout, je vois aussi quand même des gars à côté de moi qui ont l'air de dépasser leurs peurs, etc. Et du coup, ça peut être aussi quelle stratégie nous, on peut avoir en tant que meuf pour dépasser ces peurs-là, parce qu'il y en a plein, des stratégies, je pense que c'est pas du tout une fatalité. Enfin, du coup, j'avais envie de vous demander un peu, vous, comment vous viviez ça, que ce soit en manifestation, dans la confrontation, mais aussi au boulot, quand on fait grève, est-ce qu'il y a des spécificités dans le fait d'être une femme, etc.
Moi, j'ai l'impression que il y a plein de... Enfin, en fait, j'ai l'impression que, par exemple, effectivement, il y a ces choses-là qui se passent dans la rue, en manif, quand il y a des charges policières, tout ça. Mais j'ai l'impression aussi que le mouvement, il se construit aussi beaucoup dans des AG, dans des discussions, dans des réunions, dans des prises de décision. Et j'ai l'impression que ça joue beaucoup aussi, que le sexisme, il joue aussi beaucoup dans ces moments-là, dans des moments de discussion où il faut avoir le courage de prendre la parole, de bien s'exprimer, de poser ses mots, de poser clairement ses idées. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de trucs qui jouent, et aussi des notions de classe sociale, où comment il y a des personnes qui savent hyper bien s'exprimer et qui très vite on va adhérer à leurs idées parce qu'elles posent clairement les choses et que c'est compréhensible, et comment d'autres personnes qui vont plus galérer et prendre du temps, on va moins les écouter. Et c'est pas de la même manière, je trouve que c'est quelque chose qui se ressent chez les femmes, où je pense qu'on nous apprend pas forcément à bien nous exprimer, à prendre la parole en public, tout ça, et que il suffit de voir, j'ai l'impression, moi j'ai fait plus des AG étudiantes ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité de gars qui prennent la parole et que les meufs, elles ont juste beaucoup plus peur et beaucoup moins de simplicité à s'impliquer dans les débats, ou alors plus dans des positions de modération, des choses comme ça.
Il y a clairement une... moi j'ai l'impression, en tout cas... sur le campus un peu, qu'il y a clairement une répartition des tâches qui je pense est valable tout à fait ailleurs aussi. Par exemple, pas plus tard que cet après-midi, il fallait décider de qui allait coller des affiches et de qui allait faire des gâteaux. Et du coup, il y a 4 filles qui sont allées coller des gâteaux, faire des gâteaux, et des garçons sont allés coller, quoi. Du coup, c'est pas tout à fait étonnant. Et en plus, je me suis fait rembarrer quand j'ai dit que la prochaine fois, ils avaient qu'à faire une équipe non mixte pour faire des gâteaux. Non mixte gars, j'entends. Et du coup, on m'a dit, oh, t'abuses et tout. Avec tout un tas de gars qui se sont aussi justifiés un peu de dire, ah oui, mais on avait prévu, mais pas cette fois, etc. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une répartition des tâches, un petit peu aussi entre qui écrit les tracts et qui les maquette ou ce genre de choses, et qui est aussi à l'aise. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi plein de filles, moi, qui m'ont parlé de cette difficulté à prendre la parole et au fait d'avoir aussi une voix qui porte moins. Mais je pense que c'est pas tant une question de voix qu'une question d'assurance. Du coup voilà, et à se faire reprendre assez régulièrement par des gars, souvent même par leurs potes, qui reprennent ce qu'elles disent. Et moi je trouve qu'il y a vraiment une problématique à ce niveau-là, notamment dans des sphères qui sont déjà militantes en fait, et que ces choses-là, ça continue à se produire, et que en plus quand on en parle, on se retrouve dans une situation un peu stigmatisée de ah, t'es encore la sale féministe qui ramène sa pomme là-dessus. Du coup, je sais pas, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être s'organiser entre meufs pour arriver à prendre plus facilement la parole, ou à trouver des solidarités, ou je sais pas trop.
Ouais, ben moi, dans le même genre, sur mon lieu de travail, au moment de l'AG, il s'est passé le même genre de choses, et pourtant, c'est dans un lycée, donc il y a énormément de femmes enseignantes. Mais il n'empêche que à la fin de l'AG, quand il fallait écrire des pancartes pour appeler à l'AG suivante et à la manif, à qui on a donné un joli stylo pour bien écrire parce que je suis une fille, c'est à moi. Et donc oui, c'est sûr que les clichés sexistes, ben ça n'a pas fini, et même dans les luttes. Et quand je me rappelle d'avoir vu des féministes qui, dans les années 70, on disait la même chose, c'est-à-dire qu'elles en avaient marre d'être des militantes qui tapaient les... Mais c'est pas qu'elles les écrivaient, qui tapaient les tracts et les comptes rendus de réunion. Je me dis qu'on n'a pas forcément beaucoup changé là-dessus, c'est sûr. Et après, par rapport à la rue et à la peur, moi, je voulais dire que moi aussi, j'ai peur. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou si c'est parce que juste en face, la répression policière, elle est tellement violente que de toute façon, je vois pas trop comment on fait pour pas avoir peur. Mais moi, ma stratégie, c'est de toujours me balader à 5-6, quoi. Et à ce moment-là, j'ai déjà beaucoup, beaucoup moins peur. Et je trouve que ouais, le collectif et le groupe de confiance... Ça aide, même et surtout parfois quand c'est juste un groupe de meufs.
Ok, moi je pourrais un peu raconter l'expérience, on va dire syndicale, enfin même si, enfin je débute vraiment quoi, mais en tout cas à la Poste, et en arrivant dans cette boîte où avec des bases quand même féministes, en fait je me suis fait vraiment surprendre par ouais, le sexisme ambiant, et surtout par ma propre contradiction, c'est-à-dire à la fois on est obligé de faire un peu pote avec les gros syndicalistes pour être un peu dans ces trucs un peu paternalistes, c'est nos tontons quoi, pour se faire accepter, et en même temps on a envie de les, comment dire, en même temps on enrage quoi de leur réflexion, donc on est obligé de faire de tout le temps jouer entre les deux. Mais en fait, une fois qu'ils ont compris qu'on était la féministe relou, après ils nous excluent de toute façon, donc faut arriver à la stratégie, c'est de faire la grande gueule de toute façon. Et c'est vrai que c'est vraiment épuisant quoi, enfin moi je vois que il y a un double épuisement dans la lutte quoi, c'est-à-dire que à la fois non seulement pour arriver à sortir des arguments quoi? et tout ça, à prendre la parole, faire des conflits et tout, les âgés, et en même temps à l'intérieur de ses potes syndiqués aussi revendiquer une place quoi. Un exemple par exemple, et pourtant c'est un super copain hein, mais le moment où j'ai pris la parole pour la première fois en assemblée générale dans mon bureau, j'étais chambrée et à la fin il a fait hey, regarde, t'as une tache sous ta culotte, elle s'est fait pisser, elle s'est pissée dessus, un truc comme ça. Et du coup c'était un peu la blague entre les tontons de faire genre hey, elle a réussi la petite à prendre la parole mais elle s'est pissée dessus. Et voilà, et ça par exemple à ce moment là
faut faire face
quoi. Faut faire face et t'es obligé de faire ah, tu rigoles un peu mais et tu peux pas être en conflit parce qu'en même temps ce mec là par rapport à celui qui dit ouais de toute façon ça sert plus à rien de lutter machin ou tout ça. Enfin,
tu dis qu'il t'a peut-être encore des trucs à faire avec, quoi. Ouais. Et ouais, mais c'est intéressant, hein, tous ces exemples-là.
Moi, je me souviens d'un exemple, mais qui date de plusieurs années, c'était au moment du CPE, on en parlait tout à l'heure, où on avait invité des meufs qui étaient investies dans l'OCUP de la fac, qui nous avaient raconté qu'il y avait une salle qui était un peu réservée aux actions un peu musclées, donc où il y avait un peu des outils qui servaient à ces actions musclées, et que dans cette salle n'entrait quasiment, voire exclusivement, que des hommes, mais que par contre, c'est une fille qui gardait la clé. Et je trouvais ça symboliquement assez fort de cacao. Vous vouliez dire un truc
C'était sur le truc de la répartition de la parole. En fait, il y a le problème du temps, que les hommes parlent beaucoup plus que les femmes en quantité. Mais il y a aussi le truc de la qualité. Enfin, je ne sais pas si c'est qualité, mais... les femmes, on a pu remarquer, notamment aux âgés de lutte en ville et tout, que souvent, elles recadrent le débat, elles accélèrent, elles disent de revenir sur tel point, qu'il faut régler telle chose. Elles sont plus techniciennes, on va dire. Et du coup, les hommes, eux, ils se permettent de faire des grandes tirades politiques en donnant leurs opinions, avec des grands arguments, des récits de leur lecture, et des beaucoup, beaucoup plus théoriques, en fait. Et du coup, il y a un gros truc genré là-dedans, là, de dire que non seulement ils parlent plus, mais en plus ils parlent mieux. Et à nous, il nous reste que le fait de leur rappeler qu'on n'en était que à tel point de l'ordre du jour, quoi.
Nous, on est un peu les mamans. Et c'est tout à fait désagréable.
Ça veut dire quoi, concrètement?
Bah voilà. Bah c'est ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire qu'on est en train de revoir que tout se passe bien techniquement. Mais on n'apporte pas de contenu, souvent. Bon, nous, on est plusieurs à être des personnes avec une assez grande gueule. Alors, on essaie de faire aller et de parler beaucoup, mais enfin de parler plus et de voilà. Et c'est pour ça en partie, je pense que j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure quand tu me posais la question des revendications, c'est que nous on est souvent en train de faire du technique et du coup il y a pas de l'idéologie, et ce qui fait que c'était assez emblématique. J'ai répondu sur du technique parce que en fait cette AG elle a déjà pas eu beaucoup de temps à elle pour discuter de l'idéologie et tout, mais effectivement, moi, j'ai vu rarement des femmes, comme disait ma camarade, des femmes, parler de ses lectures, etc. Et du coup, il va falloir qu'on change ça, et que la prochaine fois que tu m'invites, pour le prochain mouvement social du printemps, eh ben, je puisse vous faire, ici, dans cette radio, un exposé mémorable sur l'état du mouvement social en France.
Ok, le rendez-vous est pris.
Tout à fait.
Au printemps, alors.
Rendez-vous en avril, alors.
Avec une thèse, antithèse, synthèse ou...
Et moi, un peu dans le même genre, sur la répartition de la parole, tout ça, il y a une chose que j'ai remarquée dans des... Bon, après, voilà, c'était des grosses réunions à 40... Et où vous voyez comment à des moments les gars peuvent se mettre à parler pendant des heures de tout et n'importe quoi et de faire des digressions, et puis les gens font un peu à pfff, mais ils coupent pas la personne. Mais quand c'est une meuf qui fait des digressions, au bout de 30 secondes quand on fait hey, c'est bon là, tu t'emballes, on passe à autre chose, hein. Et c'est hallucinant, les gars, on leur coupe jamais la parole pour les remettre à leur place et leur dire tu parles trop longtemps, et beaucoup plus facilement les meufs, quoi. Et c'est aussi, voilà, la crédibilité du propos, l'écoute qu'on peut avoir vis-à-vis des femmes. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment ces deux choses qui se jouent. Comment, à la fois, c'est plus dur de s'exprimer, on galère plus, etc. Et comment on se retrouve aussi dans des positions genrées. Et comment aussi, il n'y a pas d'écoute en face, ou moins facilement d'écoute, qu'il faut faire ses preuves pour être écouté, quoi.
Mais d'autant que dans cette question de la répartition de la parole, moi j'ai l'impression que de m'être fait au fur et à mesure une assurance et un bagage, notamment grâce au féminisme, et de me retrouver à prendre de la place en fait, et à prendre, en me disant qu'il y a aussi dans un optique juste de répartition, justement, de me dire que ben il faut qu'il y ait des filles qui parlent, et du coup de parler de trucs avec des copines, et du coup de moi prendre la parole, et de me retrouver dans une position un peu contradictoire, de me dire de me retrouver à être la grande gueule et à en écraser d'autres, et à écraser souvent d'autres filles qui sont moins à l'aise ou qui parlent moins, et du coup moi je trouve ça aussi super compliqué de se retrouver dans cette position un peu de la féministe qui a de l'assurance par rapport à d'autres qui tâtonnent plus, quoi.
Mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'énerve hyper fort, vous voyez, cette situation-là. Et aussi, où, ce qui m'énerve d'autant plus, c'est nous, on est toujours en train de se poser la question de est-ce que je suis légitime à parler ? Est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre la place de quelqu'un d'autre ? Et j'ai l'impression que les gars, ils ne se posent jamais cette question-là, en fait. Ils se sentent toujours légitimes à prendre la parole, à parler pendant longtemps, etc. Et que nous, même quand on a pris de l'assurance, on va continuer, en fait, à se poser des questions sur la place qu'on prend, sur notre légitimité à parler, de est-ce que c'est bien le bon moment pour dire ça, tout ça.
Et puis après aussi, j'ai l'impression que du coup, l'imaginaire, c'est leur vision, par exemple, je sais pas, on va dire une femme syndicaliste hyper forte. Et ben en fait, par exemple, moi, je l'ai intégrée, c'est-à-dire à me prouver que si, que je pourrais être reconnue si je correspond un peu à leur vision à eux. D'une femme syndicaliste qui a toujours réussi, et elle, quand elle parle, c'était du solide. Vous voyez, je sais pas comment dire. C'est obligé de se correspondre à leur forme à eux, en fait. Et c'est. Ouais, c'est vraiment. C'est la merde.
Ouais, ça me fait penser au camion de la CGT pendant les manifs, où notamment il y en a un où il y a une femme qui est dessus et tout, qui du coup, qui clame des slogans et tout ça. Et du coup, c'est compliqué parce que je me dis, ouais, bah ouais, c'est bien. Enfin, voilà, ouais, c'est une meuf qui exprime aussi son point de vue et qui est relayée du coup par les manifestantes et manifestants et tout. Mais effectivement, je trouve que c'est un peu, il faut que ce soit sur un certain mode et tout. Enfin, t'as l'impression que c'est faut rentrer dans le moule de qu'est-ce que c'est la bonne syndicaliste qui gueule bien comme il faut et tout, quoi.
Et je pense que tu parles de d'une des secrétaires départementales de la CGT. Et elle fait souvent des discours en fin de manifestation, place de Verdun, par exemple. Et une fois, elle faisait un discours. Elle était applaudie à chaque point par des sortes de syndicalistes de la CGT dont les cris s'apparentent parfois à des beuglements. Et donc, elle était applaudie beaucoup moins que les trois hommes d'avant. Et quand elle a abordé le problème de la retraite par rapport aux femmes, donc comme on a parlé en début d'émission, là, elle s'est pris un gros vent, c'est-à-dire elle a fini son discours par « Quelle est donc cette société misogyne ?» Et tous les membres de la CGT, dans le public, il y a eu trois rares applaudissements, et je me suis sentie très mal pour elle, et pourtant je me sens rarement proche des secrétaires départementaux de la CGT, mais voilà, c'était sur la question du féminisme, sexiste, et du coup, ça m'a fait vraiment mal pour elle. Mais bon, elle n'a qu'à pas être secrétaire départementale, mais je pense que vraiment, au sein de la CGT, ça doit être quelque chose d'assez correct, ça doit être assez costaud de parler même de ce problème-là, même rien que sur la revendication de la retraite. Hein. Je pense que ça doit être difficile. Et ça m'a fait. J'avais l'arme aux yeux un peu.
Alors, ce que tu dis sur la secrétaire, départementale de la CGT, je pense qu'on peut aussi peut-être en faire la critique dans nos propres rangs, parce que moi, j'ai entendu parler d'une AG interprofessionnelle de lutte dans laquelle cette question-là a été abordée, des femmes et des retraites. Et en fait, D'abord, ça n'a pas été écouté, et même pire que ça, je veux dire, on a renvoyé l'idée que oui, mais ça, c'est une question spécifique, c'est pas aussi important, et puis limite, ça fait le jeu du gouvernement de parler de ça, parce que ça va permettre au gouvernement de revenir là-dessus et faire passer la pilule de la loi des retraites juste en faisant des petits arrangements sur la question des femmes. Et donc, si on porte ces revendications, on fait le jeu du gouvernement. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà.
Je ne pourrais pas te dire que j'ai fait de longues études, que j'ai lu tout Shakespeare et que ce ne fut pas rude. Je ne te dirai pas non plus que mon chemin était tracé, que je ne me suis jamais perdu sur des routes mal dessinées. Je ne me vanterai pas, entre vieux camarades de cours, d'avoir un bel emploi, que mes actions montent toujours. Moi, je n'aurais pas de passé, de magnifique élève au travail appliqué et qui jamais ne rêve. Je n'assurerai pas mes arrières avec des diplômes mérités par ma studieuse lumière et mon travail acharné. Je ne ferai pas de longue carrière dans les hygiéniques couloirs d'une banque où je ne compte même plus mon salaire, car dans ma vie, rien ne me manque. Je n'aurai pas de congé payé pour un club merde en famille, ni de week-end prolongé à Crans-Montana ou aux Antilles. Je ne pourrais pas me permettre de faire 5 beaux enfants et de bien leur transmettre ma large culture, mon bon allemand. Je ne pourrais pas les aider en latin ou en bio pour les maths appliquées, ni pour l'étude de Marivaux. Je n'aurais pas d'horaire sympa de 9h à 5h tapante, où je pourrais chaque jour chez moi cuisiner dans la détente. Je n'aurais pas d'habitude dans une vie sans repos, où il n'y a qu'exactitude. Pas d'habitude dans une vie sans rebond, où il n'y a que l'exactitude qui étouffe.
C'est l'émission Dégenrée sur Radio Kaléidoscope 97 FM et on parle des mouvements sociaux. Vous venez d'écouter Johanna, donc c'est une petite Suissesse qui est axée souvent de grande gueule justement dans les interviews parce qu'elle mâche pas ses mots apparemment et qui vit depuis peu à Grenoble et c'est là qu'elle a enregistré cet album. Voilà.
Est-ce qu'on a bien dit qu'on était toujours sur Dégenrée? Ah bah ouais, c'est fou, j'ai des petits trous de mémoire. Du coup, voilà, c'est important parce que c'est le cadre où on peut parler justement de nos visions, nos ressentis, nos analyses de meufs par rapport à toutes ces questions sociales. Et donc, bah là, on avait envie de voir justement aussi quelle stratégie on pouvait trouver et on avait expérimenté dans différentes luttes, dans nos boulots, dans des grèves, dans des manifs, etc. pour se renforcer, pour moins mal vivre les choses, pour pas être enfermé dans des rôles qui nous intéressaient pas. Et puis, qu'est-ce que nous, on avait envie de porter à travers ces luttes? Donc, j'ai l'impression qu'il y avait différents exemples de stratégies. Alors, à la Poste, par exemple, comment on peut se débrouiller avec les syndicalistes et tout? Vous avez testé des trucs un peu ou...
Bah, en fait, après, des fois, il y a des trucs d'amitié entre filles qui s'installent et où juste de prendre la place, de... Bon, par exemple, c'est vrai qu'il y a aussi boire des coups, quoi, en fait, déjà.
Non, faut jamais oublier l'intérêt de la convivialité.
Bah, disons que boire des coups, on est un peu obligé parce que sinon, après, on est un peu mis à l'écart. Alors, on est obligé d'aller les voir tout le temps pour avoir les informations. Disons qu'ils ne nous préviennent pas. Ça, c'est un peu...
Ah oui, parce que tu veux dire que c'est au bar un peu que les trucs se discutent et du coup si tu veux avoir les infos
quand même pas mal ouais parce qu'on discute pas on n'a pas trop le temps en fait de discuter au boulot vu que c'est un quand même c'est un peu collectif mais surtout on est tout seul quoi la plupart du temps et du coup on n'a pas trop le temps de se parler qu'on a une pause de d'un quart d'heure mais en un quart d'heure on se détend on parle pas du syndicat on parle un peu mais pas tant que ça quoi.
Et du coup, ça peut être une bonne idée d'aller boire des coups après avec les gens pour avoir les infos et en discuter, quoi.
Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a, ce truc, même si ça fait un peu... des fois, on s'incruste dans les bandes, dans les groupes de syndiqués garçons. Bah, c'est vrai qu'on arrive et puis on boit des bières comme eux. Bon, on en pâtit un peu les frais, mais... mais en tout cas, ça crée aussi... Et puis de se capter entre filles, de se faire des clins d'œil, de se dire comment ça va et tout ça... Bon, mais après, des fois, dans le feu de l'action et tout ça, des fois, c'est vrai qu'on on passe plus d'énergie à prendre de la place parmi les garçons qu'à prendre soin des unes des autres. Et ça, moi, je vois vraiment cette limite. Et sinon, après, des fois, c'est faire en sorte que quand il y en a une qui veut parler en réunion ou en assemblée, de faire un peu... Et là, elle est en train de parler, quoi, ou un truc... Enfin, de s'entraider à laisser la place de la parole, par exemple. Des petits trucs comme ça.
Et moi, ça me pose des questions parce que tout à l'heure, tu parlais de comment ils pouvaient être un peu relous et sexistes sur des trucs et tout ça. Et comment vous gérez, par exemple, est-ce que vous avez des stratégies, par exemple, autour de trucs de séduction qu'il peut y avoir ou de drague gros sabots ou drague moins gros sabots, tout ça. Et notamment, par exemple, quand vous buvez des bières avec, avec vos collègues.
Bah, disons qu'on les taquine un peu, mais ça reste toujours du taquin. C'est juste pour rigoler, quoi. On est un peu obligés parce qu'on est là et on est des filles, quoi.
On fait les grosses paillardes, comme eux, des fois. Enfin, on fait encore pire, quoi. Enfin, on accentue, on fait des trucs aussi, des allusions, des fois, un peu lesbiennes et tout. Je pense, ouais, on est obligés de... Enfin, à la fois, on en joue de ce truc de séduction, parce que ça, on a une place, et à la fois... ouais, c'est ça, ouais, c'est là.
On se débrouille comme on peut.
Mais après, on a souvent la réputation de soit être des extraterrestres ou des complètement barges. Ou en fait, après, on se pose plus trop la question. On est là et on est là, quoi.
Après, sur cette question de la séduction, des fois, c'est lourd avec des gros sabots. Et puis, des fois aussi, quand même, pendant les mouvements sociaux, que ce soit entre meufs ou avec les gars, c'est peut-être les moments où on fait des tas de rencontres et où la séduction, ça peut aussi être sympa. Enfin, je veux dire, des fois, c'est les mouvements sociaux pour draguer. Ça peut être cool, quand même.
T'as raison, faut voir le côté positif des trucs. Hein. Allez, descendez dans la rue pour rencontrer, pour échanger, pour trouver des différents plans, quoi.
Attention, Mythique, tu vas t'écrouler.
Non, mais c'est clair, je pense qu'on peut voir les trucs de différentes manières. Ça me rappelle aussi ce que vous racontiez sur La Poste. Ça me rappelle une émission qu'on avait fait sur les métiers du bâtiment. Et ça me rappelle des stratégies justement sur ce truc de effectivement d'en rajouter une couche par exemple et de dire d'y aller par exemple sur des allusions sexuelles ou quoi, dire de pouvoir y aller franco soi-même et que des fois ça laisse pantois les gens en face, en l'occurrence les mecs ou quoi.
Après, des fois le problème c'est par contre, j'ai l'impression que c'est les générations plus jeunes là où on sent de faire ça. Bon, il y a quelques femmes aussi plus âgées qui le font aussi. Mais il y a un truc de des fois casser la solidarité avec les femmes plus anciennes dans nos bureaux qui se disent mais c'est qui ces filles, quoi. Et là, dans ces cas-là, elles se braquent total. Et il n'y a plus de discussion parce qu'on a l'air d'être mal poli ou d'être un peu déjanté. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, elles coupent vraiment la communication. Et ça pose vraiment question, quoi. Enfin, d'être...
De comment est-ce qu'on peut à la fois, mais c'est toujours la même question, j'ai l'impression qu'il revient, comment on peut à la fois prendre de la place et rentrer dans l'art et tout ça, et en même temps pouvoir garder des solidarités et des amitiés ou des liens avec d'autres femmes en fait. et où moi j'ai l'impression que en tout cas c'est ce qui renforce vachement dans les mouvements sociaux, de créer des solidarités, de à des moments ce truc de dire hey, écoutez là elle est en train de parler, ou quand elle lève trois fois le doigt pour avoir la parole et puis que personne lui donne, ou alors qu'on lui coupe à chaque fois la parole, de se mettre à gueuler à plusieurs pour dire mais en fait vous l'écoutez pas, ou de se retrouver après et de se raconter mais c'est fou quand même il se passe toujours ça, et d'avoir ensemble entre meufs en fait des analyses collectives et politiques et féministes de ce qui se passe, et de visibiliser entre nous les situations, et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou alors ne serait-ce que de se dire ensemble ah oui ah non mais c'est vrai mais carrément mais c'est dégueulasse, et du coup ça fait aussi que le fait de se retrouver autour de choses qui se passent, et ben ça donne, et de savoir qu'on n'est pas juste paranoïaque quoi, que ça se passe vraiment, et ben ça permet de réagir aussi plus facilement en fait, et de savoir qu'on est soutenu quand on réagit par nos copines. Et je trouve que c'est ce qui donne de la... Moi, en tout cas, c'est par exemple la stratégie la plus forte que j'ai trouvée quand je lutte avec des gars, quoi.
Et du coup, ouais, je pense que c'est une question très importante, hein, la stratégie, parce que c'est comment on peut continuer à lutter. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi la question de quel contenu on a envie de mettre dans ces luttes-là. Et du coup, moi, ça me renvoyait aussi ces questions de... qui était tout à l'heure un peu l'anecdote là de la secrétaire départementale de la CGT en fait, qui à un moment parle des discriminations envers les femmes, des inégalités, etc. et comment elle est pas soutenue et tout, et que j'ai l'impression que nous il y a vraiment cette idée de dire qu'il n'y a pas, une cause qui serait supérieure aux autres, et que nous, on veut lutter sur tous les terrains à la fois, et pas que la question du sexisme, par exemple, elle soit reléguée après. On dit, typiquement, sur l'exemple précis des retraites, dire non, mais là, l'important, c'est que l'âge de la retraite il soit pas reculé, et puis que pendant ce temps, on ne parle pas du tout de toutes les inégalités que les meufs subissent ou quoi, mais que c'est valable un peu pour tout, quoi.
Ce que tu veux dire, enfin moi je crois, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que à des moments donnés on se retrouve sur des luttes spécifiques, sur des trucs ponctuels. Donc là c'était la retraite, mais comme on disait tout à l'heure, pour nous c'est pas que la retraite qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une remise en question plus profonde, plus radicale de ce système qui nous emmerde. Je fais court comme ça, et en fait c'est comme si ça, même là je parle des milieux radicaux quoi, du coup plus on est tous d'accord là-dessus, mais par contre dès lors qu'on parle de féminisme, de la question des oppressions, parce qu'il n'y a pas que le féminisme, il y a aussi les oppressions racistes, enfin on pourrait en citer d'autres, et ben là oh là là, mais là c'est trop spécifique là, alors que je crois que, enfin je sais pas si vous partagez ce point de vue, mais je pense que si, c'est que c'est justement l'occasion, là on est tous et toutes réunis, on est là pour lutter tous ensemble, on vit des trucs super forts ensemble, et ben allons-y, attachons-nous aussi à ce qui nous traverse et à toutes ces oppressions là, et on va pas attendre que je sais pas quoi se passe pour s'y mettre quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu des choses qui sont arrivées souvent dans ces mouvements là et tout.
Oui, surtout que cette réforme, elle veut juste rajouter 2 ans d'une vie pourrie, enfin, tu vois, enfin, dans le sens où on se dispute pour 2 ans, alors que sur tout le reste, on se rend bien compte que c'est la catastrophe. Donc, ça paraît ridicule de juste 2 ans. Je sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, je pense que beaucoup de personnes partageaient ça quand même. Partager ce ras-le-bol général.
Mais moi, j'ai l'impression, ce qui m'affole aussi, c'est comment, à plein de moments, la lutte ou quoi, elle se base sur il faut être solidaire entre nous, tout ça, mais que quand on parle d'oppression qui regarde pas une grande partie des gens, et ben toutes ces personnes qui sont pas regardées par l'oppression, juste elles font bah, et elles réagissent pas. Et par exemple, ben, c'est ce truc où quand il y a un discours sur comment cette réforme elle est sexiste et qu'elle défavorise les femmes, et ben. Et ben il y a voilà, c'est pas applaudi, et j'ai l'impression de la même manière j'ai entendu à un moment un discours là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils sont très rares sur comment par exemple toutes les personnes qui ont émigré en France, et ben leur toutes les années qu'elles ont travaillé avant dans d'autres pays ou dans un autre pays, et ben elles sont pas prises en compte ou très peu ou très difficilement, et ben ça il y a déjà très très peu de discours là-dessus, et en plus quand il y a un discours là-dessus, j'ai l'impression qu'il est très peu relayé, quoi. Et je trouve ça affolant, en fait, qu'on peut parler de solidarité et que c'est important de la solidarité. Et en même temps, quand on est dans la position où c'est nous qui pourrions être solidaires, eh ben, c'est pas le cas. Et du coup, ça me pose vraiment question. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui se retrouvent dans le mouvement social présentement. Et en même temps, voilà, c'est ce truc où à un moment, ben moi, une réforme des retraites qui va juste changer le système de retraite et le fait qu'on supprime cette réforme-là, et pour quelque raison que ce soit, en fait, parce que ça rajoute 2 ans ou parce que c'est misogyne ou n'importe quoi, en fait, ça m'intéresse pas si on se remet pas collectivement en question sur c'est quoi les systèmes d'oppression qui existent dans notre... Dans notre société, quoi.
Ouais, je crois que c'est toutes ces questions-là. Et alors, je sais pas si on se fait une petite pause musicale avant de se retrouver voilà, pour poursuivre aussi sur tout ce qu'on aimerait bien qui n'existe plus dans les luttes actuelles, ce qu'on aimerait aussi pouvoir y amener.
Alors,
Dans ta bouche trop souvent, c'est être insulté. Dans ta tête trop souvent, c'est être frayeur. C'est d'être humilié, souillé, dominé, émasculé. On te prête pour un
ton rejet, dépédé sur ta virilité. Et macho, t'as le nerf mal placé. Et toi franchi, arrête d'en rajouter.
Des insultes perpétuent un système fondé sur les désirs bafoués, l'amour normalisé. Les emancipations sociales se battent pour nains, alors change leur fin.
Y'a plusieurs manières de s'envoyer en l'air, alors laisse tomber la chasse aux sorcières. Renverse les barrières, y'a du plaisir derrière, et laisse-les se faire. Dans ta bouche trop souvent, c'est insulté. Dans ta tête trop souvent, cette frayeur, c'est d'être humilié, souillé, dominé, émasculé. Quand on te prenne pour un
ton rejet, t'es de faire ta virilité. Le macho, t'as l'honneur mal placé. Et toi, franchis, et puis t'en rajouter. Autre chose à dire à cœur. Il est temps de rectifier le tir à chaque situation d'oppression. Son vocabulaire pertinent et précis, car on se fait exploiter. Tous les bourgeois se fait contrôler par l'efficace avantique. Tu fais arnaquer par ton propriétaire. Et tout cela, on les vendra. Allez, tu fais ça. Une partie plus d'insultes préconisée par les fêtes du parti.
Depuis 2 semaines, on est dans le mouvement de grève qui dépasse considérablement la réforme des retraites. On est dans les manifs, sur les piquets et dans les actions. C'est plutôt la classe, toute cette effervescence, ces rencontres, ces joies partagées et aussi bon, la fatigue qui s'accumule. Par contre, Sarko et son monde ne sont pas une bande de sales pédales ou d'enculés. Ce sont des fachos qui envoient les robocops pour nous arrêter et nous contrôler. Des sales racistes, des hétéroflics, des sexistes. Une bande de connards. Et c'est pareil pour les jaunes, les renards, ceux qui sont contre la grève. Ils refusent de se battre pour conserver les droits acquis par des luttes, pas des tapettes, juste des sacrés trouillards. Voilà ce qu'ils sont.
tout sauf des PD. Parce que les pédales et les enculés, c'est nous. On est fiers d'être des enculés en lutte. Alors, il n'y a pas moyen que ces identités soient utilisées pour nos ennemis.
Alors voilà, c'était une musique de Fetus Party qui s'appelle Positive Sodomy et qui parle de l'utilisation du terme enculé comme insulte, qui est une insulte homophobe. Et c'était suivi d'un extrait de la dernière émission de radio de On n'est pas des cadeaux, une émission d'Amis de Lyon, qui est une émission transpédéguine. Et dans leurs informations au début, ils ont fait ce petit passage sur les insultes en manif. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, on peut rebondir là-dessus parce que c'est aussi une ambiance, enfin, ça fait aussi une ambiance qui règne dans les manifs. Et par exemple, je me souviens, dans la dernière manif à Grenoble, une grande banderole écrit un truc du genre Carla, on est comme toi, on se fait baiser par Sarkozy. Et ou alors, enfin, des termes comme ça, en fait, Sarko serre les fesses, on arrive à toute vitesse. Et pour moi, toute cette ligne de slogan, par exemple, autour de serre les fesses, on arrive à toute vitesse, et ben pour moi, c'est de l'ordre de l'incitation au viol. Et c'est pas drôle, et c'est pas rigolo, et c'est pas, enfin, c'est franchement sexiste, en fait. Ça s'inscrit vraiment pour moi dans un système sexiste, et de comment aussi, voilà, le langage, et ben, il contrôle beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans nos vies et aussi beaucoup de choses dans nos pensées, en fait. Et du coup, j'avais un peu envie qu'on passe ce temps à parler des insultes dans les slogans ou dans les manières de communiquer, en fait, en manif ou à d'autres moments, en fait.
Oui, non, parce que je crois que pour moi, cette question, elle va bien avec truc que c'est pas anodin, en fait. Enfin, qu'à un moment, on peut pas dire non, mais là, on s'occupe de préoccupations sociales, alors on en a rien à foutre d'être sexiste ou d'être raciste. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de faire des parallèles. Si on faisait des blagues racistes dans les manifs, voilà, en disant ouais, on va faire. T'es qu'un, je sais pas, Sarko, t'es qu'un bougnoule, on va je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, ça passerait pas, quoi. Enfin, et du coup, c'est vraiment cette idée que, ben oui, nous, on veut lutter globalement pour des. Une vraie refonte du système social qui soit plus solidaire, etc. Pour nous, ça va avec plus de racisme, plus d'homophobie, plus de sexisme, etc., que sinon ça nous intéresse pas et qu'on peut pas faire passer l'un avant l'autre, quoi.
J'ai l'impression souvent l'excuse qui existe, c'est de dire ah mais ça n'a plus le même sens quand on dit putain ou quand on dit enculé, ben ça veut pas dire personne qui pratique une sexualité anale ou travailleuse du sexe. Et en fait c'est pas vrai, en fait c'est parce que les personnes déjà sont catégorisées comme ça et se reconnaissent là-dedans, et quand c'est utilisé comme une insulte, et ben certes ça peut avoir plusieurs sens, ou il peut y avoir un glissement sémantique ou je sais pas trop quoi, mais à un moment il y a toujours des personnes qui font partie, en fait, de ces catégories-là et qui sont pas nos ennemis, en fait, et qui sont pas le pouvoir, qui sont pas des flics, qui sont des alliés. Et à un moment, et ben c'est aussi excluant et rejetant d'employer ce terme-là.
Mais alors, parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, tu te retrouves dans une manif et puis y a plein de monde et les gens ils gueulent et ça fait plaisir et de se retrouver au milieu d'une foule où on gueule et tout. Et voilà, et sauf que là, les gens, ils se mettent à gueuler, enculer ou des choses comme ça. Et vous, ça vous est déjà arrivé, des trucs comme ça? Vous avez trouvé des solutions alternatives pour entraîner la foule à crier autre chose, ou... Je sais pas si vous avez des anecdotes à raconter.
En tout cas, par exemple, là, à la poste où je bosse... C'est hyper chaud parce que c'est vraiment le langage régulier, même le patron, je me suis enfin encore enculé, ah ouais, bah mets encore de la vaseline, un truc comme ça, là ça sera à sec, enfin que des trucs comme ça. Et c'est vraiment, ouais, là moi j'avoue, je suis en attente de stratégies et d'armes pour contrer ça, parce qu'à plein de moments je vais des fois j'essaye de dire non mais enculé c'est pas une insulte, donc change de terme, un truc comme ça. Mais ouais, enfin c'est chaud, quoi. Mais c'est hyper hyper présent, en tout cas dans là où je bosse, par exemple.
Ouais, et puis dans la discussion, à la limite, on peut parler dans un cortège de 2000 personnes qui crient tous ensemble Sarkozy, enculé, nanani, enculé, et hop, on arrive à toute vitesse et on court et tout. Étant donné que, ouais, d'abord, il y a les
enfin, y a tout le monde qui crie autour, c'est difficile de parler à tout le monde. En plus, souvent, y a un gars au micro, alors ouais, il faut se le sentir d'aller voir le gars au micro pour lui dire « Hey, dis donc !» Et ouais, ouais, bah, moi, ça m'est arrivé là, à la dernière manif. T'as juste envie de changer de cortège, quoi. Voilà, je crois, j'ai pas trouvé d'autre solution, moi.
Ouais, peut-être, je me dis, la seule note positive, ce serait de se dire, ben, plus on est nombreuses et nombreux à être conscients de ça et tout, plus, voilà, plus ça peut se répandre et les pratiques peuvent changer. Et parce que, en vrai, au bout d'un moment, moi, je sais qu'avec les gamins, par exemple, en faisant des colos ou quoi, ces trucs-là, de dire non, mais enculé, en fait, tu sais, c'est pas une insulte, en fait, c'est une pratique, voilà, et des gens qui aiment ça, machin, des filles, des garçons, bref, et tout, et ben, au bout d'un moment, ça fait, ah ben ouais, en fait, c'est débile, et les pratiques, elles changent aussi, et bon. Je sais pas, la pédagogie des fois, j'en sais rien, des tentatives. Et du coup, dans les 10 minutes qui nous restent, on avait envie de vous dire tout ce qu'on n'a pas pu vous dire pendant l'émission, vous voyez, c'est, voilà, parce que ça, forcément, ça soulève plein de réflexions et tout. Alors, par exemple, il y avait comme la manif qui a eu lieu à Paris samedi dernier, qui était intéressante parce qu'elle faisait des ponts entre différentes thématiques.
Oui, justement, quand on parle de spécificité et du fait qu'on s'est vraiment attardé sur la réforme des retraites et que c'est quand même une réforme qui s'en prend directement aux conditions de vie des femmes, ça va. Ce qui est intéressant, c'est que samedi, donc, il y a eu une manif qui a été un appel national. Et c'était aussi pour donc l'hôpital public et le droit à l'IVG, parce que ça fait partie de ces spécificités qui sont en train de s'en prendre plein la figure. C'est-à-dire que réforme, restructuration, tout ça, on se retrouve avec des hôpitaux qui ferment, des maternités qui ferment, des plannings familiales qui ferment. Et du coup, qui est-ce qui en pâtit une fois de plus ? Eh bien, les femmes. Donc du coup, il y a eu cette manif qui a été organisée par la coordination des associations pour le droit à la contraception et l'avortement, l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception et le planning familial, et qui a réuni pas mal de monde, parce que quand les femmes se réunissent, et ben, ça fait du monde. Et malgré la pluie, elles étaient là pour montrer une des spécificités, quoi. Que c'est pas que la réforme des retraites, ça va au-delà, qu'il y a encore beaucoup de choses à batailler actuellement.
Oui, moi, c'est un tout petit peu pour rebondir sur aussi ce qui se disait avant. Un des trucs horribles aussi, ce qui passe dans ces manifs, vous voyez, c'est toutes les musiques qu'il y a sur les sonos, et où il n'y a aucun tact pour choisir ces chansons. Et en passant de Les filles de la CGT, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la musique Les filles de la CGT.
C'est ouais, Mélissa Métis d'Ibiza,
qui est quand même...
Merci, force ouvrière.
C'est hallucinant, quoi. Et vraiment, et où, comment on peut se sentir bien là-dedans, enfin, c'est...
Ça dit quoi, la chanson Les filles de la CGT, vous savez ?
Non ? Oh bah, elles sont fortes, elles luttent, elles ont toujours le poing levé, je sais pas trop quoi.
Bah, c'est pas mal, moi je...
Oui, ça finit, alors, elles sont où les filles de la CGT ? Et puis alors derrière, il faut crier, ouais !
Mais là, justement aussi, je voulais rebondir pour une idée, justement sur ce truc des filles fortes et tout ça. Moi, ce que j'ai capté aussi pendant ce mouvement-là, et que ça continue, hein, mais c'est aussi de se dire entre filles, justement, à des moments, nos limites, dans ce truc d'être tout le temps dans la lutte, quoi. Et en même temps, comme il faut en plus avoir de l'énergie, en plus pour se battre à l'intérieur sur les questions de genre, enfin, on est doublement épuisé, enfin, même triplement, avec les enfants aussi et tout. Et du coup, il y avait vraiment ce truc qui a émergé, enfin, que j'ai trouvé important de se partager, de se dire, bah là, tu sais quoi, prends une pause. Et c'est pas grave si t'es pas la grande guerrière qui sera tout le temps au manif. Là, enfin, prends soin de toi, là, on va peut-être boire des coups. Ou, en tout cas, se déculpabiliser aussi sur ce truc, on n'est pas que des guerrières dans le monde des guerriers. Et ça, je trouvais que c'était vraiment, enfin, vraiment chouette, en tout cas.
Oui, j'ai l'impression que c'est pas tant dire ses limites que ses besoins, là-dedans.
Ouais, en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ce mouvement, il a quand même permis, justement, à des filles d'être ensemble et de faire des analyses communes, et que c'est aussi comme ça qu'on est plus fortes et tout. Et donc ça, c'est quand même un point positif, même si c'est pas encore assez et qu'il y a encore 12 milliards de trucs à faire là-dessus. Et par contre, sur le fait de la répartition de la parole et tout, quand on est une fille et qu'on ose parler, ça m'a fait penser, quand on a dit ça tout à l'heure, là, à des études qui ont été faites dans les écoles sur la discrimination positive envers les filles, en fait, qu'un prof, quand il fait parler... participer et tout, autant de fois une fille qu'un garçon dans une classe, il a l'impression qu'il favorise la fille. Et en fait, alors qu'ils ont un temps de parole égal entre la fille et le garçon qu'on parlait. Et du coup, je pense que nous, on a vachement intégré ça, et que quand on parle juste normalement et autant que n'importe quel bonhomme d'une AG ou d'un comité de mob ou d'autres choses, eh ben, on a l'impression qu'on parle trop. Et que du coup, on a parlé vraiment beaucoup, et que putain, ce qu'on est dominante comme fille. Oh merde. Et du coup, est-ce qu'on est dominante et tout. Et alors que, en fait, juste, on a parlé normalement. Et moi, je trouve pas qu'on parle trop. Et je trouve qu'on devrait être encore plus à parler beaucoup.
Et alors, sur cette note positive aussi, non, il y avait d'autres exemples de stratégie, non ?
Oui. En fait, avec la camarade qui vient de parler, on a participé à un blocage il y a une quinzaine de jours. Et donc, à ce blocage, qui était très tôt le matin, j'ai discuté avec plusieurs syndicalistes même, qui ont lancé toutes ces bordées d'injures dont on a parlé précédemment, qui parlaient de Sarkozy. On était autour d'un feu de palette dans une franche camaraderie virile, et donc ils ont qualifié Sarkozy de plein de choses dont on a parlé avant. Je vais pas y revenir. Du coup, j'ai entamé ce débat là sur les insultes, où je leur ai suggéré d'autres insultes, et je pense que c'est peut-être une des choses qu'on pourrait faire, distribuer des petits fly avec d'autres idées d'insultes. Voilà, donc j'ai dit qu'on pouvait aussi les appeler espèce d'ambassadeur, va à Matignon, nanti, bourgeois, faquin. Et moi, je suis pour la réhabilitation des insultes médiévales qui n'étaient pas sexistes. Voilà, et donc ce même monsieur, donc il était un peu sympa, mais il était tout à fait viril. Voilà, il n'y a pas de monde. Il était un peu épais, viril, voilà, c'est ça. Et c'est le mot, en fait. Et après, vers la fin, il a fallu arrêter le blocage, lever le blocage, puisque la CGT, une fois de plus, l'avait décidé. Et donc là, il fallait enlever les palettes de devant l'endroit où on était. Et donc, avec la camarade, nous nous sommes précipités pour enlever des palettes. Et puis, deux hommes se sont précipités pour nous enlever les palettes des mains. Et il y en avait un, c'était celui-là. Donc, c'était ce garçon-là. Et c'était bien. On a bien réussi à garder notre palette pour les déplacer. Je disais, dégage. Mais... Tu te pousses, on a la palette, tu te pousses. Et franchement, pour faire des choses comme ça, c'était bien, parce qu'en fait, du coup, comme en fait, je faisais un dégage, mais d'une façon un peu pseudo-drôle, alors du coup, il riait jaune, c'était pas le conflit ouvert, mais c'est plus par l'humour, comme disaient les personnes de La Poste tout à l'heure. Et du coup, ça faisait qu'on avait les rieurs et les rieuses avec nous, et ça s'était bien passé. Et du coup, nous aussi, on a pu participer à la franche camaraderie des palettes.
Moi, je voulais juste dire une dernière chose sur la question des spécificités. C'est que on nous renvoie toujours le fait que oui, alors on a des revendications de seconde zone et qui sont moins importantes et tout ça. Mais moi, je pense que justement, si on nous prêtait un peu attention, si on prêtait un peu attention à toutes ces analyses-là, je pense que la solidarité qu'on nous demande, elle serait bien plus forte, quoi. C'est pas parce qu'on va se taire sur nos revendications qu'on va être plus unis. Au contraire, je pense que pour être unis, il faut chacun annoncer ce pourquoi on se bat, voilà, pour qu'il y ait une solidarité réelle.
Et pour ce qui est de reprendre des forces et d'être solidaire entre filles, je vous propose une petite manif non mixte à Paris le samedi 27 novembre. Un rendez-vous à 17h devant l'hôpital Tenon, rue de la Chine, dans le 20e arrondissement. Et pour plus d'infos, donc, vous pouvez aller sur ragedenuit.blogspot.com. Et donc ça, c'est pas mal, parce que c'est comment des femmes lesbiennes, trans vont se réapproprier la rue, justement, et l'espace, et toute cette solidarité. Et moi, pour l'avoir testé une fois, cette marche de nuit, ça fait vraiment du bien. Ça, on en ressort bien gonflé à bloc, quoi, pour d'autres luttes.
Bah, c'est clair qu'on en avait fait une l'année dernière, là, l'automne dernier, et qu'on était, je crois, 200 meufs dans la rue, et que ça nous avait bien fait du bien, quoi.
Et qu'il ne faut pas hésiter, voilà, y en a vu une, on a organisé une à Grenoble l'année dernière, on ne la refait pas cette année, mais je pense qu'il y en a aussi ailleurs qu'à Paris, donc à mon avis, effectivement, allez voir sur Internet, etc. Et puis organisez peut-être une dans votre village et tout, effectivement, ça fait du bien.
Ça donne des idées de slogans d'ailleurs, parce que du coup, pendant la préparation, il faut réfléchir et tout, et il y a pas mal de trucs assez sympas au niveau des slogans.
Et à Grenoble, parce que du coup, souvent, les marches de nuit, elles s'organisent autour de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui sont le 25 novembre. Et à Grenoble, il y a une diffusion de films dans un squat qui s'appelle les Minitubes et qui est avenue du Grand Châtelet, en direction de Saint-Martin-d'Air. Et vous voyez, c'est ce film qui s'appelle Ne dis rien en français. C'est un film espagnol. Le titre original, c'est Te doy mis ojos. C'est sur les violences conjugales et ça parle beaucoup de solidarité et comment on peut s'en sortir. C'est pour ça qu'il est chouette.
Ben, sur ce, merci beaucoup à vous voilà, d'être venu nous parler de voilà, pourquoi vous luttiez, comment. Avec qui, comment on peut se renforcer et tout. Et puis, bah voilà, que la lutte continue et à très bientôt alors.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Ouais, c'était trop bien.